Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles, allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit Seigneur se faire une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, priez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes à l'évangile de Saint-Luc, chapitre 4. Verset 16, sur le polycopier qui contient les commentaires des Pères de l'Église pour les chapitres 1 à 5 de Saint-Luc, donc à la page 36. Donc nous allons en principe aujourd'hui terminer, si Dieu veut, le chapitre 4, peut-être même commencer le chapitre 5. Jésus vint à Nazareth, donc verset 16 et 17 du chapitre 4, où il avait été élevé, et il entra selon la coutume, selon sa coutume, le jour du sabbat dans la synagogue, il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe, et ayant déroulé le livre, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé publier aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vie, à la vue renvoyer libres les opprimés. Donc, Capharnaüm était la ville de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était né à Bethléem, avait vécu à Nazareth, mais il a toujours considéré Capharnaüm comme étant sa propre ville. Et c'est pour ça que les pères considèrent Capharnaüm comme étant le siège de la vie apostolique de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il rentre dans la synagogue. Le mot synagogue signifie la réunion. On peut même traduire ça par église ou assemblée. Donc les pères ont jugé plus convenable de donner le nom d'église aux réunions du peuple élevées par la grâce à une plus haute dignité. Donc la synagogue juive est le symbole de l'église catholique qui va arriver. Notre Seigneur Jésus-Christ, pour bien montrer le lien qui existe entre la religion juive de l'Ancien Testament et la religion catholique du Nouveau Testament, va respecter la synagogue juive. Alors, que signifie ce terme un peu étrange auquel on n'est pas habitué en français, du verbe « oindre », qui est un mot peu utilisé. L'Esprit du Seigneur et sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le terme oindre dans ce sens-là signifie consacrer. Le roi était consacré, l'évêque est consacré. Le prêtre est aussi consacré d'une certaine façon. Plus exactement, ses mains, ses doigts, ses paumes sont consacrées par l'huile des catéchumènes. C'est plus une bénédiction qu'une consécration parce que l'huile qui est utilisée pour les consécrations n'est pas l'huile des catéchumènes, mais le Saint-Crème. C'est pour cela que l'évêque est consacré avec le Saint-Crème. Cependant, il y a tout de même une certaine consécration chez le simple prêtre, à cause du fait que le sacrement de l'ordre va lui donner un caractère inamovible. Et qui dit caractère dit consécration. Lorsqu'un enfant, un bébé est baptisé, il reçoit le caractère d'enfant de Dieu et ce caractère correspond à une consécration. C'est pour cela qu'à la fin du baptême, le prêtre va oindre le sommet de la tête de l'enfant avec le Saint-Crème. Lorsqu'on reçoit le sacrement de confirmation, il y a également une consécration comme soldat de Dieu, et une fois de plus, c'est l'huile de la consécration, le saint crème qui est utilisé. C'est la même chose pour la perfection du sacerdoce, à savoir l'épiscopat. Donc, notre Seigneur fut oint secrètement le jour de l'incarnation par la grâce de l'union hypostatique qui le fait Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est que cette union hypostatique? Cette union hypostatique, c'est l'union entre l'humanité et la divinité. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, voyait Dieu constamment, puisqu'il était Dieu dans la même personne. N'oublions pas que dans la même personne de notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait à la fois une nature humaine et une nature divine. Donc, cette union hypostatique, c'est la grâce d'union. La grâce d'union, notre Seigneur Jésus-Christ, l'union hypostatique sont une seule et même chose. L'union hypostatique, c'est l'union entre la divinité et l'humanité. Donc, c'est cette grâce d'union hypostatique qui fait du Fils de la Très Sainte Vierge Marie, Dieu. Avec toute la plénitude des grâces qui en découlaient, disent les Pères. Donc le Christ allait à la fois rendre la santé à ceux qui étaient physiquement malades et illuminer ceux qui étaient spirituellement aveugles et ignorants de la voie du salut. Donc les guérisons physiques que va opérer notre Seigneur Jésus-Christ sont le symbole d'autres guérisons qui, elles, ne se voient pas, savoir les guérisons de l'âme. Donc quand il dit qu'il est envoyé pour délivrer les captifs, pour rendre la vue aux aveugles, pour envoyer libres les opprimés, il ne faut pas simplement comprendre cette phrase sur un plan physique, mais voir ce qui est représenté derrière sur le plan spirituel. De la même façon que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple, ressuscite le fils de la veuve de Naïm, eh bien, cette résurrection physique symbolise une résurrection spirituelle. Le jeune homme qui se lève, qui se dresse, qui commence à parler, représente celui qui est tombé dans le péché mortel, qui sort du péché mortel par la grâce de la confession. Mais là, c'est pareil. Donc, lorsque nous sommes en état de péché mortel, nous sommes captifs. Notre Seigneur Jésus-Christ va apporter la délivrance aux captifs en sortant ces âmes qui sont sous possession du démon, en coupant la chaîne qui les unit avec le démon, leur rendre leur liberté. De la même façon, quelqu'un qui vit dans le péché mortel est un aveugle spirituel. Cette cécité spirituelle l'empêche de voir Dieu. Eh bien, par la confession, l'aveugle spirituel va retrouver la vue spirituelle. La même chose pour la liberté aux opprimés. Qui est l'opprimé? L'opprimé, c'est celui qui est dans les pattes du démon. Celui qui est dans les chaînes, enchaîné par le démon, est opprimé comme un esclave, parce qu'il sert celui à qui il s'est donné. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, par la confession, par les grâces de conversion qu'il nous donne, va libérer ses opprimés. Donc les pères expliquent, c'est en bas de la page 36 sur le polycopier, les pères expliquent que les pauvres sont les nations pauvres, dénuées de tout bien, sans Dieu, sans loi, sans prophète, sans justice, sans aucune vertu. Les pauvres sont donc ceux qui ont perdu, si vous voulez, toute forme de vie intérieure. Et il faut comprendre que plus nous sommes riches de biens matériels, plus nous sommes automatiquement, plus nous nous rendons pauvres de biens spirituels. La révolution à laquelle nous assistons aujourd'hui dans le monde moderne ne peut pas être comprise tant qu'on n'a pas réalisé que la révolution, la haine farouche de toute forme de vie intérieure. Donc pour sortir de cette pauvreté spirituelle, il faut retrouver une vie intérieure, d'où l'importance de la méditation. C'est lorsqu'on en réapprend à méditer, qu'on apprend à méditer tout simplement, qu'on se libère de l'esclavage du démon. Les cœurs brisés dont parle notre Seigneur sont les faibles dont l'âme est fragile et qui ne peuvent résister aux assauts des passions à qui il promet le retour à la santé. Et le démon va tambouriner à la porte de nos âmes, si vous voulez, pour essayer d'y rentrer, et il va finir par briser ces portes. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, par sa puissance divine, va rétablir l'intégrité de la porte spirituelle de notre âme pour mettre le démon dehors et cette fois-ci l'empêcher de revenir. La captivité, elle, ici, il parle d'une captivité corporelle, qui vient d'ennemis extérieurs, mais derrière cette captivité corporelle est représentée une captivité bien plus affreuse, disent les pères, qui est celle de l'âme, car le péché exerce sur elle la future tyrannie. De la même façon qu'un prisonnier dans une prison physique n'est pas libre de quitter sa prison, de la même façon, lorsque nous sommes sous la puissance du démon par le péché mortel, nous ne sommes pas libres de quitter la prison spirituelle dans laquelle nous sommes enfermés, et nous devenons esclaves du démon parce que nous sommes donnés à lui. Lorsque nous sommes en état de péché mortel, et ça il faut bien le comprendre, lorsque nous sommes en état de péché mortel, le démon nous possède, nous devenons propriété du démon. Même lorsqu'on baptise un petit enfant, un petit nouveau-né, tout mignon, tout beau, tout sourire, il faut comprendre qu'avant l'ablution qui va effacer le péché originel, donner donc la vertu de charité, eh bien avant cette ablution, l'ablution du baptême, l'ablution elle-même du baptême, eh bien le bébé appartient au démon. Et c'est pour cela qu'il y a des exorcismes, il y a deux exorcismes pendant la cérémonie du baptême, avant l'ablution, pour obliger le démon à quitter cette âme. Sors de cet enfant. Le prêtre va donner l'ordre au démon, quitter cet enfant. S'il donne l'ordre de quitter l'enfant, sors de cet enfant, esprit immonde, et laisse la place au paraclet, au Saint-Esprit. S'il donne l'ordre au démon de quitter l'enfant, c'est que le démon vivait dans cet enfant. Alors on a beaucoup de mal à expliquer ces choses-là. Les parents même sont parfois un peu scandalisés lorsque j'explique dans un baptême, un petit mot que je dis avant le baptême, que avant le baptême, l'enfant appartient au démon. Et par le baptême, l'enfant change de propriétaire. Il était propriété du démon, il est libéré de l'esclavage du démon et devient propriété de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cela qu'on dit que le caractère du baptême donne une marque indélébile d'enfant de Dieu. Alors, il faut réfléchir, si je constate que je suis spirituellement aveugle, que je suis spirituellement pauvre, que j'ai un cœur spirituellement brisé, que je suis captif spirituellement parlant, c'est à moi d'utiliser les sacrements, le sacrement de pénitence, la vie de prière, la vie pénitentielle, la vie intérieure, pour retrouver ma liberté. Celui qui suit le démon prétend être libre. Les gens du monde moderne vont vous dire qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils ne sont plus libres. Parce que, étant dans le péché, vivant dans le péché mortel jusqu'au cou, ils ont perdu leur liberté. En fait, ils sont les esclaves du démon. Donc, qui est la personne la plus libre sur la terre? La personne la plus libre sur la terre, c'est celle qui, par ses trois vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, arrive à réfréner complètement les trois concupiscences de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Les trois concupiscences des yeux, de la chair et de l'orgueil. Donc encore une fois, le vœu d'obéissance entraîne la destruction d'une certaine façon. Le vœu d'obéissance entraîne la destruction d'une certaine façon de l'orgueil. Le vœu de chasteté va donner d'une certaine façon la destruction, la concupiscence de la chair, et le vœu de pauvreté va donner d'une certaine façon la destruction de la concupiscence des yeux, donc la véritable liberté. Le moine qui est fidèle à ses vœux de pauvreté, chasteté et obéissance est donc libre, libéré des trois chaînes du démon, la chaîne de la concupiscence des yeux, la chaîne de la concupiscence de la chair et la chaîne de la concupiscence de l'orgueil. Passons à la page 37 sur le polycopier. Donc c'est de toute captivité spirituelle que le Christ veut nous délivrer. Donc toutes ces maladies physiques que notre Seigneur Jésus-Christ va guérir, qui frappaient tellement les fidèles, les disciples et ceux qui suivaient notre Seigneur Jésus-Christ, donc c'est cette libération, cette guérison physique est le symbole d'une guérison infiniment plus grande. C'est saint Augustin qui en parle dans son commentaire de l'Évangile. C'est un commentaire de l'Évangile du 15e dimanche après la Pentecôte. Donc il explique bien que on est frappé par les résurrections spirituelles, mais on ne voit pas les milliers de miracles spirituels qui sont bien plus grands. Voilà ce que dit saint Augustin. Je vous lis ce texte qu'on trouve au commentaire sur une homélie de saint Augustin pour le qu'on utilise au bréviaire du prêtre en troisième nocturne pour le 15e dimanche après la Pentecôte, après la résurrection de Naïm. Donc Jésus ressuscite le fils de la veuve de Naïm, et voilà ce que dit saint Augustin. Si la résurrection de ce jeune homme comble de joie la veuve, sa mère, notre mère, la Sainte Église, elle, se réjouit ainsi, aussi en voyant chaque jour des hommes ressuscités spirituellement. Le fils de la veuve était mort de la mort du corps. Ceux-ci sont morts de la mort de l'âme. On pleurait visiblement la mort visible du premier, mais on ne s'occupait, on ne s'apercevait même pas de la mort invisible de ces derniers. Celui qui connaissait ses morts s'occupa d'eux, et celui-là seul les connaissait qui pouvait leur rendre la vie. En effet, dit saint Augustin, si le Seigneur n'était pas venu pour ressusciter ses morts, l'apôtre ne dirait pas, lève-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. Donc nous trouvons dans l'évangile trois morts ressuscités visiblement par le Seigneur, mais il a ressuscité par milliers des morts invisibles. Qui peut savoir combien de morts il a rendu visiblement à la vie, car tout ce qu'il a fait n'est pas écrit. Saint Jean dit, il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Si elles étaient écrites en détail, je ne pense pas, disait Saint Jean, que le monde lui-même pût contenir les livres qu'il faudrait écrire. Beaucoup d'autres, sans doute, ont été ainsi ressuscités, mais ce n'est pas sans raison qu'il n'ait fait mention que de trois. Notre Seigneur Jésus-Christ voulait qu'on entendît dans un sens spirituel les miracles qu'il opérait sur les corps. Il ne faisait pas des miracles pour des miracles seulement, mais il voulait qu'en excitant l'admiration de ceux qui les voyaient, ils fussent encore pleins de vérité pour ceux qui en comprenaient le sens. Ensuite, il termine en disant, celui qui voit des caractères dans un livre parfaitement écrit et qui ne sait point lire, loue ivrement l'habileté du copiste en admirant la beauté des caractères, mais il en ignore la destination, le sens. Il loue ce qui frappe ses yeux, mais son esprit ne le pénètre pas. Un autre, au contraire, non content de louer l'adresse de l'écrivain, comprend le sens des caractères. Non seulement il voit ce que tout le monde peut voir, mais il sait lire ces caractères, ce que ne peut le premier qui n'a point appris à le faire. De même, dit saint Augustin, ceux qui ont été les témoins oculaires des miracles de Jésus-Christ, sans saisir la signification de ces miracles, sans comprendre ce qu'ils indiquent, pour ainsi dire, aux âmes éclairées, ceux-là n'ont admiré que le fait matériel du miracle, mais d'autres ont à la fois admiré les faits et en ont eu l'intelligence. Tels devons-nous être à l'école de Jésus-Christ. Donc ne pas s'arrêter simplement au miracle physique que notre Seigneur Jésus-Christ a opéré, comme par exemple la résurrection de la petite fille du chef de la synagogue ou du centurion, la résurrection du fils de la veuve de Naïm et la résurrection de Saint-Lazare. Il faut voir ce que ces résurrections physiques représentent. Elles représentent toutes ces résurrections spirituelles qu'on ne voit pas. Lorsqu'un homme rentre, une âme rentre dans un confessionnal chargée de péchés mortels et qu'elle s'accuse de ses péchés mortels avec la contrition, avec l'accusation, prête à réparer autant que faire se peut, elle ressuscite littéralement d'entre les morts. Alors, si on voit on assiste à une résurrection d'un mort physiquement parlant, on est impressionné. On n'est pas du tout impressionné par les confessions parce qu'on ne réalise pas ce qui s'y passe. Donc c'est de cette captivité spirituelle que le Christ venait de livrer. Le vrai soleil de justice a dissipé les ténèbres épaisses que le démon avait amassées dans le cœur des hommes. Ils étaient enfants de la nuit et des ténèbres, il les a fait enfants du jour et de la lumière. Qu'y a-t-il de plus brisé, de plus broyé que l'homme à qui Jésus-Christ est venu rendre la liberté et la guérison? Donc par la confession d'enfant de la nuit, d'enfant des ténèbres, on devient enfant de la lumière. Notre Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde, le sel de la terre, et lorsque je retrouve l'état de grâce, je deviens participant à cette lumière divine, à ce sel qui assèche les miasmes du péché, les miasmes de l'erreur. On continue avec Saint Luc chapitre 4 verset 19, donc qui suit voilà le texte. Notre Seigneur dit en parlant de lui-même, il m'a envoyé publier aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vie, renvoyer libres les opprimés et publier l'année favorable du Seigneur. Cette année favorable du Seigneur, ce qu'on appelle une année jubilaire, une année du jubilé, était le type et la figure de l'année évangélique apportée par le Christ. Cette année favorable dont parle Saint Luc ici au chapitre 4, verset 19, est l'année de l'éternité qui ne ramènera plus le cercle des travaux de ce monde et qui donnera aux hommes la jouissance des fruits éternels d'un repos qui ne finira jamais. Qu'est-ce que c'est que ce repos qui ne finira jamais? Ben, ce repos, c'est évidemment le repos du ciel. Donc l'année favorable du Seigneur, c'est l'année de la réconciliation avec notre Seigneur Jésus-Christ par la grâce sanctifiante qui nous amène au paradis. Saint Luc chapitre 4 versets 20 à 23. Ayant roulé le livre, Jésus le rendit à l'employé et s'assit. Et tous dans la synagogue avaient les yeux attachés sur lui. Et il se mit à dire à leur adresse, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. Donc il vient de leur dire, leur annoncer la bonne nouvelle, la délivrance des captifs, le retour à la vue des aveugles, la libération des opprimés. Et tous lui rendaient témoignage et admiraient les paroles toutes de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Et il leur dit, sans doute, vous me direz cet adage, médecin, guérissez-vous vous-même. Tout ce que nous avons ouï dire que vous avez fait pour Capharnaüm, faites-le ici aussi dans votre patrie. Hein? Malheureusement, la plupart des gens qui écoutaient notre Seigneur Jésus-Christ vont vite retomber dans les mêmes fautes. Donc ceux qui prétendaient guérir les autres, qui se prétendaient médecins officiels, souvent vont retomber dans les mêmes fautes. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, justement, va par sa résurrection, va amener des grâces nouvelles par les sacrements qui n'existaient pas encore dans l'Ancien Testament. N'oublions pas que dans l'Ancien Testament, aucun des sacrements existait. Il n'y a pas le baptême. Il y avait certes le baptême de Saint Jean-Baptiste en fin d'Ancien Testament, mais le baptême de Saint Jean-Baptiste n'était pas un baptême sacramentel, c'était un sacramental en quelque sorte, une préparation pour obtenir le regret de ses péchés. Versets 24 à 25. Jésus ajouta, en vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. En vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé pendant 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine dans le pays. Donc notre Seigneur leur donne une claque, là, très forte. Il explique bien qu'il va, il prépare ici les gens à comprendre que les Juifs, malheureusement, qui étaient ceux pour lesquels notre Seigneur Jésus-Christ était déjà venu, vont refuser leur maître, et notre Seigneur Jésus-Christ va substituer au peuple juif de l'Ancien Testament, les Juifs convertis qui vont former une nouvelle Église, à savoir l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église catholique. Donc le Christ enseigne à ceux qui sont appelés à la vocation, le suivre de façon plus parfaite, de se couper de tout attachement et affection excessif pour leur propre pays, afin d'être vraiment utile aux hommes. Le seul pays est le paradis. Ils doivent considérer toute la terre comme une place d'exil. Attention, mon Dieu ne dit pas, l'Église ne dit pas qu'il faut mépriser son pays. Le quatrième commandement, tes pères et mères honoreront afin de vivre longuement, quatrième commandement a aussi une signification pour nous obliger à aimer notre pays. Si bon Dieu nous a placés dans tel pays, c'est pour que nous essayions de lui faire du bien sur le plan spirituel. Et pas simplement sur le plan spirituel, même sur le plan matériel, que nous participions d'une certaine façon à l'élévation morale de ce pays. Hein? Donc, notre pays, c'est le paradis. Le catholique qui devient catholique, qui par le baptême, devient citoyen du paradis. Donc on n'est pas français puis catholique, on est catholique d'abord puis français ensuite, et pas l'inverse. Donc notre Seigneur va rappeler aux pharisiens qui l'écoutent, qui sont des hypocrites, il leur rappelle qu'aucun prophète n'est accepté, n'est reconnu dans sa patrie, qu'il y avait bien des veuves en Israël, mais Élie ne fut pas envoyé à aucune d'elles, mais à une femme veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. C'est le verset 26 et 27. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Aucun d'eux ne fut guéri, si ce n'est Naaman le Syrien. Donc ces étrangers, la veuve de Sarepta, le Naaman le Syrien, ces étrangers représentent la substitution, encore une fois, du catholicisme qui va prendre la place de la religion juive, qui était la véritable religion de l'Ancien Testament, mais qui va devenir mortifère à partir de l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que le rideau du temple, j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois, le rideau du temple va se déchirer en deux, précisément à cause de cela. Donc, cette veuve de Sarepta, le Naaman le Syrien, sont les précurseurs, les prémices des gentils. Pourquoi? Parce que le prophète Élie était le précurseur du Christ. Donc le Christ, Élie est au Christ, ce que la veuve de Sarepta, ce que Naaman le Syrien sont aux catholiques. Donc cette veuve, ce Syrien qui est guéri de sa lèpre, représente les prémices des gentils que le Christ allait préférer aux Juifs. C'est vraiment la substitution. Je sais bien que dans le monde moderne, ça passe plus du tout, les gens n'acceptent plus ça, c'est pourtant exactement ce qui s'est passé. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour les Juifs. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour la Sainte Famille, il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. C'est ce qui nous dit l'Évangile selon Saint-Luc au début. On a déjà vu ces passages. Donc Élie devient la parole prophétique qui nourrit les cœurs de ceux qui croient. Élie était pour eux comme la lumière du jour parce qu'il voyait dans ses œuvres l'éclat de la grâce spirituelle qui était en lui. Malheureusement, des juifs de l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ ne vont pas voir justement cette divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, ils vont s'arrêter à l'extérieur, ils vont être incapables de pénétrer dans la coque pour considérer l'amende. Ils vont rester à la porte, si vous voulez, de l'Église, sans malheureusement vouloir y rentrer. Page 38, en haut de la page. Donc le ciel, disent les pères, s'ouvrait pour ceux qui étaient témoins des divins mystères, et il se fermait durant la famine, alors qu'il n'y avait aucun moyen facile d'arriver à la connaissance de Dieu. Donc cette veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon, est une figure de l'Église. Donc Élie, c'est-à-dire la parole prophétique, vient trouver l'Église pour nourrir et fortifier les cœurs des vrais croyants qui le recevaient. Donc il y a ceux qui vont reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ, ceux qui vont le refuser. Il y a un certain nombre de Juifs qui vont se convertir. Je vous l'ai déjà souvent dit, tous les premiers catholiques, au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, étaient tous des Juifs convertis. Encore faut-il voir, encore une fois, derrière la coque, voir l'amande qui se cache dans la coque. Il faut briser la coque, et qui représente l'humanité du Christ, pour voir atteindre l'amande elle-même, qui, elle, vraiment nourrit. La coque ne nourrit pas, elle protège l'amande, c'est tout. Donc la coque est à l'humanité du Christ, ce que l'amande est à la divinité du Christ, et c'est l'amande qui nourrit. Mais pour atteindre l'amande, il faut briser la coque, c'est le symbole de la passion du Christ. La passion du Christ est représentée par ce brisement de la coque. Tant qu'un casse-noix, on ne casse pas la coque de la noix, on ne peut pas atteindre l'amande, c'est impossible. On ne peut pas se nourrir. Vous pouvez avoir à votre disposition des kilos et des kilos de noix, si vous n'avez rien pour casser ces noix qui sont trop dures, eh bien, on ne peut pas atteindre l'amande, on ne peut pas nourrir notre âme. Donc l'amande est la nourriture des âmes, et c'est celle-là qui compte. Donc, allégoriquement, le peuple s'approche de l'Église pour marcher à sa suite. C'est ce peuple composé des nations étrangères, ce peuple couvert de lèpre, avant qu'il ne fût plongé dans le baptême du fleuve mystique, mais qui, après avoir reçu le sacrement de baptême, qu'il a purifié toutes les souillures du corps et de l'âme, a commencé à devenir une vierge immaculée, sans rides comme sans tache. Donc, la lèpre dont parle ici le texte, qui parle donc du lépreux, Naaman le Syrien, qui était lépreux, donc cette lèpre représente la souillure du péché. Le peuple couvert de lèpre, qui est donc le symbole, si vous voulez, du péché qui détériore l'âme, qui va abîmer l'âme. Et donc le baptême, de même que l'eau d'une fontaine va nettoyer le corps, le baptême va nettoyer l'âme en enlevant cette corruption spirituelle de l'âme. Donc, le baptisé devient, dit le Père, comme une vierge immaculée sans ride et sans tache. Alors, si je trouve un autre texte des Pères, il est ordonné au peuple des gentils de se laver 7 fois, parce que le baptême qui nous sauve est celui qui nous régénère par les 7 dons du Saint-Esprit. C'est aussi le symbole là des 7 sacrements. Sa chair, après avoir été lavée, devient comme celle d'un enfant, parce que la grâce qui est notre mère nous fait tous renaître à une seule et même enfance, ou bien parce que nous sommes rendus semblables à Jésus-Christ, dont il est dit, un enfant nous est né. Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous ne posséderez pas le royaume des cieux, nous dit notre Seigneur. Et on voit très bien que les pharisiens, les princes, les prêtres juifs, n'acceptent pas ces reproches. C'est le proche de notre Seigneur Jésus-Christ qui leur explique. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je suis prophète et je suis mal reçu chez mes propres enfants. Et notre Seigneur Jésus-Christ explique. De même que le miracle a lieu en faveur d'une veuve qui n'était pas du peuple juif. De même que le lépreux qui a été guéri n'était pas quelqu'un du peuple juif, mais un étranger. Donc la veuve de Sarepta ou Naaman le Syrien, de la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ qui voit son peuple refuser de s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il va aller chercher un autre peuple, c'est ce qui s'est passé. Alors évidemment, ils n'ont pas apprécié du tout, les pharisiens n'ont pas du tout apprécié ces reproches de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est les versets 28 à 30 du chapitre 4, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue en entendant ces paroles. Et se levant, ils le chassèrent hors de la ville, et ils le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. Qu'est-ce que ça veut dire? Son heure n'était pas encore venue. Notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, il mène sa barque. Donc, comme notre Seigneur Jésus-Christ savait que ce n'était pas encore son heure, donc il n'a pas laissé le pouvoir à ses pharisiens de le tuer à ce moment-là. Il leur donnera ce pouvoir plus tard, au moment de la Passion. Donc il n'est pas étonnant qu'ils aient perdu le salut, eux qui chassent le sauveur de leur pays. En passant au milieu de ceux qui le poursuivaient, sans qu'ils puissent se saisir de lui, le Christ montre la supériorité de sa nature divine. Et en s'éloignant d'eux, il prouve le mystère de son humanité et de son incarnation. Donc il y a un mélange toujours à notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa personne, il y a une double nature, une nature humaine, une nature divine. Donc les Juifs voyaient la nature humaine, n'étaient pas capables de voir la nature divine qui se cachait derrière cette nature humaine. Donc c'est grâce à cette double nature en notre Seigneur Jésus-Christ que le mystère de la rédemption a pu s'opérer. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas uni à sa divinité notre humanité, il n'aurait pas pu mourir sous la croix, puisque Dieu ne peut pas mourir. Notre Seigneur Jésus-Christ est vrai Dieu, vrai homme. Il naît pour mourir, il naît pour souffrir, il naît pour monter sur la croix afin de réparer nos péchés. Quand nous refusons, nous qui sommes coupables, de faire pénitence, alors Dieu, qui n'est pas coupable, qui est totalement innocent, vient faire pénitence pour nous. Donc Jésus ne voulut pas qu'un si grand sacrilège fût commis par la multitude, et il devait être crucifié par un petit nombre, lui qui mourait pour le monde entier. Ce sont les princes, les prêtres qui vont condamner notre Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, l'immense majorité des Juifs de son temps, et c'est toujours le cas aujourd'hui, vont être d'accord avec ce meurtre de notre Seigneur Jésus-Christ, ce crime de déicide, et pour cela qu'ils vont tous dire en cœur que son sang retombe sur nous, sur nos têtes et sur la tête de nos enfants. Donc il devait être crucifié par un petit nombre qui mourait pour le monde entier. Alors verset 31-37, en bas de la page 38 sur le polycopier, donc Saint-Luc chapitre 4 verset 31 et suivant, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et là il les enseignait les jours de sabbat. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il y avait dans la synagogue un homme possédé d'un démon impur, qui cria d'une voix forte, en disant, « Laissez-nous, qu'y a-t-il de commun entre nous et vous, Jésus de Nazareth? Êtes-vous venu pour nous perdre? Je sais qui vous êtes, le Saint de Dieu. » Mais Jésus le menaça en disant, « Tais-toi, sors de cet homme. » Et le démon, l'ayant jeté à terre au milieu de l'assemblée, sortit de lui sans lui faire aucun mal. Et l'épouvante les saisit tous, et se parlaient l'un à l'autre en disant, « Quelle est cette personne ? Ils commandent avec autorité, avec puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée se répandue de tous côtés dans le pays. C'est-à-dire que plus notre Seigneur Jésus-Christ se multiplie ses miracles, plus les petits se convertissent et moins les grands se convertissent. Plus notre Seigneur Jésus-Christ multiplie ses miracles, plus les grands du royaume, les pharisiens, les scribes et les lévites, plus ils s'éloignent de lui. Pourquoi? Parce que l'orgueil éloigne de notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'au contraire, l'humilité des petits, du petit peuple, permet à ce peuple d'accepter l'ouverture de leur âme pour recevoir la grâce du bon Dieu. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, disent les Pères en bas de la page 38, en commençant le jour du sabbat, les œuvres de la rédemption divine veulent nous apprendre que la nouvelle création commence le jour même où l'ancienne création avait fini. Il y a une recréation, une espèce de transsubstantiation, voyez, c'est-à-dire que l'ancien peuple est transformé en un nouveau peuple. L'ancien peuple qui était un peuple attaché aux choses d'ici-bas va être transformé en un cœur, en un nouveau peuple attaché aux choses d'en haut. Passons à la page 39, on avance assez vite là, 36. J'ai cru que je n'ai rien oublié. Donc page 39, en haut de la page. Telle est l'impudence du démon qui cherche à introduire le premier parmi les hommes, un usage, une coutume, et la présente comme nouvelle pour imprimer une plus grande crainte de sa puissance. Jésus-Christ, au contraire, veut nous accoutumer à ne faire aucun cas de semblables révélations, bien qu'elles paraissent conformes à la vérité, car c'est un crime de choisir le démon pour maître quand nous avons pour nous instruire les saintes écritures. Donc attention à ces tentations sous apparence de bien. Attention à ces loups qui se recouvrent d'une peau de brebis. Donc le démon est le singe de Dieu, et donc avec impudence il va essayer de rouler les hommes dans la farine, d'où l'avertissement de notre Seigneur Jésus-Christ pour que nous ne fassions aucun cas de ces révélations qui s'écartent de la tradition. Il y a beaucoup d'apparitions qui sont fausses, certaines sont véritables. Alors il est très difficile d'arriver à savoir où sont les fausses apparitions, où sont les vraies apparitions. Alors on peut se servir de signes, puisque notre Seigneur Jésus-Christ nous a prévenu qu'un bon arbre donnerait toujours de bons fruits. Donc les signes d'une véritable apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, ou de notre Sainte Vierge Marie, ou d'un saint, un des signes c'est d'abord la joie, puis la paix, puis la lumière, et enfin l'attraction vers les choses de Dieu, vers les choses belles. Au contraire, un signe que l'apparition n'est pas de Dieu, c'est d'abord la tristesse. La tristesse, la confusion, l'obscurité de l'âme, et qui amène à l'attraction vers les choses laides, vers les choses mondaines, vers les choses de ce monde. Alors, les pères se sont demandé qui était cet homme possédé d'un démon impur, donc qui criait d'une voix forte, qui va être obligé de reconnaître que Jésus est le Messie. Laissez-nous, qu'y a-t-il de commun entre nous et vous, Jésus de Nazareth? Je sais qui vous êtes, le Saint de Dieu. Mais Dieu va le faire taire, parce que ce n'est pas encore son heure. Donc, faisons attention à ces fausses révélations qui sont très très fréquentes. Le démon, encore une fois, le singe de Dieu, est plus facilement nous tromper. Donc je vous conseille beaucoup en matière d'apparition de suivre comme règle toute simple la règle que nous donnait Mgr Lefebvre, savoir de ne suivre que les apparitions reconnues par l'Église avant la mort du pape Pie XII en 1958. Je ne dis pas encore une fois que toutes les apparitions modernes sont fausses, c'est pas ce que je dis, mais il est très difficile, voire même impossible, d'être sûr de la véracité de ces apparitions modernes, parce que l'Église moderne ne fait plus son travail. Il n'y a plus d'investigations proprement dites qui sont faites, il n'y a plus d'avocats du diable dans ses jugements, dans ses procès de sainteté, ses procès d'acceptation d'une apparition, et donc on ne peut plus du tout faire confiance à l'Église de Vatican II. Alors cet homme de la synagogue qui est possédé de l'esprit impur, donc on a vu au verset 33 du chapitre 4, il y avait dans la synagogue un homme possédé d'un démon impur. Donc cet homme possédé d'un esprit impur,
immonde, impur, disent les pères, c'est le peuple des Juifs qui, enlacé dans les filets du démon, profanait la pureté apparente de son corps par les souillures trop réelles de son âme. Il est possédé d'esprit immonde parce qu'il avait perdu l'Esprit Saint, car le démon prenait possession de la demeure que le Christ venait de quitter. Lorsque un démon est chassé d'une âme, rappelez-vous d'autres passages qu'on verra plus tard, qu'est-ce que fait le démon? Il va chercher à revenir. Et quand il revient, il trouve l'âme tout ornée par la grâce sanctifiante. Et qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va se décourager? Non, il va chercher sept autres démons, pire que lui. Il revient essayer de rentrer. Et s'il arrive à rentrer la deuxième fois dans l'âme, à ce moment-là, la situation de cette âme devient pire qu'au début. Parce que le démon est rentré avec sept autres démons, c'est le symbole des sept péchés capitaux. Donc soit je fais rentrer les sept dons du Saint-Esprit, soit je fais rentrer les sept péchés capitaux, soit j'accepte les sacrements, les sept sacrements qui me donnent les dons du Saint-Esprit, soit je refuse ces sacrements, en refusant donc en voie de conséquence les dons du Saint-Esprit, et je vais donc à ce moment-là tomber dans l'esprit immonde du démon. Soit je suis notre Seigneur Jésus-Christ, soit je suis les sept démons qui entourent l'esprit immonde. Donc c'est ça qui est terrible, c'est que le démon prend possession de la demeure que le Christ vient de quitter. Lorsque le démon dans une âme, l'Église le chasse par le baptême, et notre Seigneur Jésus-Christ vient prendre possession de la demeure que le démon vient de quitter. Mais malheureusement, l'inverse est aussi vrai. Lorsqu'un homme commet un péché mortel, est baptisé comme un péché mortel, par ce péché mortel, il chasse notre Seigneur Jésus-Christ et le démon va venir prendre la possession de la demeure que le Christ vient de quitter. C'est ça le drame du péché mortel. Qu'est-ce que c'est qu'un péché mortel? Ça consiste à ouvrir la porte de notre âme, mettre le bon Dieu dehors, et par cette même porte que Dieu vient juste d'utiliser pour quitter mon âme, je fais rentrer une créature. Aversio ad Deo, conversio ad creaturas, dit saint Thomas d'Aquin. Se détourner de Dieu, aversio ad Deo, conversio ad creaturas, pour se convertir, pour se tourner vers la créature. Donc il y a un combat terrible. Rappelez-vous la phrase de saint Augustin que je cite très souvent, deux amours ont fait deux cités, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même, c'est la cité du ciel, et l'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu, c'est la cité de la terre. Donc il y a un combat terrible, et on ne peut pas éviter ce combat, et ça c'est le problème des catholiques libéraux. Les catholiques libéraux ont voulu marier ensemble les principes de la Révolution avec les principes de l'Évangile, les principes de liberté, d'égalité et fraternité avec les principes de pauvreté, chasteté, obéissance. Évidemment, ils ont tout perdu. Donc attention à ne pas redonner pouvoir au démon. Malheureusement, à chaque fois que je commets un péché mortel, je redonne pouvoir au démon, et le démon va revenir avec sept démons pire que lui. Et donc, il faut surtout pas rester dans le péché mortel. Si j'ai le malheur d'avoir perdu le bon Dieu par un péché mortel, ne pas y rester et me précipiter au confessionnal pour retrouver la paix du bon Dieu. Lorsque je me confesse avec la contrition, avec l'accusation, prêt à réparer, à ce moment-là, le démon est obligé de partir. Alors, les pères ici font une remarque, page 39. Il ne convient pas que l'homme soit constamment dominé par la colère. C'est le propre des bêtes féroces. Ni qu'il soit inaccessible au sentiment de la colère, ce qui serait insensibilité et donc impossible. Mais il doit tenir un juste milieu et manifester une certaine colère contre le mal. En fait, il faut haïr le mal, haïr le péché. Non pas haïr le pécheur, attention, mais haïr le péché. On peut même dire que le fait que nous ne haïssions pas le péché prouvera que nous ne sommes pas vraiment des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui diligitis dominum, odite malum, dit le roi David. Celui qui aime le Seigneur doit haïr le mal. C'est Ernest Hélo qui disait, j'ai souvent cité cette phrase parce qu'elle est très belle et très vraie, qu'on peut faire croire qu'on est de la vérité, qu'on est de l'armée de la vérité, de l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ, mais à notre absence de haine de l'erreur, les gens verront que nous ne sommes pas véritablement de l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'en fait nous sommes des traîtres, parce que nous prétendons être dans une armée, mais que notre cœur, notre intelligence, fonctionne avec l'autre armée. J'ai souvent expliqué qu'il faut mieux être ouvertement avec le démon que de prétendre être avec notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'en fait, on est avec le démon. Parce que là, il y a en plus l'hypocrisie. Bon, les applications politiques sont très faciles à faire. Je préfère avoir devant moi un ennemi déclaré qu'un ennemi qui prétend être un ami qui en fait est un ennemi. Parce que dans le deuxième cas, la situation est bien plus dangereuse. Je préfère avoir devant moi un Mélenchon qui est un ennemi déclaré de notre Seigneur Jésus-Christ. Au moins les choses sont claires. On a devant nous quelqu'un qui veut empêcher le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Que d'avoir devant moi quelqu'un comme Marine Le Pen ou De Gaulle, qui se prétendait catholique, qui était débaptisé, qui avait été élevé en éducation catholique, mais qui en fait, par leur amour, par leur affection, prouvent qu'ils sont avec le démon. Donc ils sont physiquement dans l'armée, en principe, je dis bien en principe, dans l'armée du bien, mais en fait, par leurs actions, par leur façon de se comporter, on voit très bien que leur cœur, leur intelligence, leur âme est avec le démon. Et donc, pour moi, que ce soit De Gaulle, que ce soit Marine Le Pen, c'est le même exemple qu'on peut donner, parce que ça peut être le même genre de personne, d'un certain côté, il y a l'hypocrisie en plus. Quelle est la différence entre la perversité d'un Mélenchon ou la perversité d'un Le Pen, de Marine Le Pen? Chez Marine Le Pen, il y a pour moi en plus l'hypocrisie. Je ne peux pas supporter ça. L'hypocrisie de gens qui se prétendent catholiques, mais qui ne sont catholiques que de façade. Oui, c'est ça qui tue la France. La France est morte, justement, de ces gens qui se prétendaient catholiques, mais qui ont fait sortir notre Seigneur Jésus-Christ. Qui a fait sortir Dieu de la Constitution française? C'est De Gaulle en 1958. Qui a fait passer l'avortement en France? C'est Giscard d'Estaing. Quelqu'un qui se prétend catholique. C'est ahurissant. Vous vous rendez compte la responsabilité de cet homme? Et actuellement, je crois que le chiffre officiel, c'est 220 000 enfants coupés en morceaux dans le sein de leur mère à cause de Giscard d'Estaing. Et à cause de tous ceux qui ont accepté ces horreurs. Et donc, je ne vois pas comment un catholique peut même songer une seule seconde à voter pour quelqu'un qui est pour l'avortement. Or, c'est un secret pour personne, pour revenir au triste exemple que je viens de vous citer, c'est un secret pour personne que Marine Le Pen est pour l'avortement actuellement. Donc elle est pour l'assassinat des enfants. Le drame de l'avortement, c'est pas simplement le fait que ces âmes que des enfants innocents sont coupés en morceaux dans le sein de leur mère, c'est le fait que ces pauvres enfants ne verront jamais Dieu parce qu'ils meurent avec le péché originel. Ils seront donc dans les limbes pour toute l'éternité. Certes, les limbes, c'est pas l'enfer. Certes, il y a, comme dit Saint Robert Benaroumain ou Saint Charles Borromée, je ne sais plus lequel des deux, il y a un bonheur philosophique dans les limbes, mais les choses sont là. Un enfant dans les limbes ne verra jamais Dieu tant que Dieu est Dieu, c'est-à-dire pour toute l'éternité. Donc, il faut manifester une certaine colère contre le mal. Et c'est parce que, justement, nous ne manifestons plus cette colère contre le mal que nous en sommes arrivés là où nous sommes actuellement. Versets 38 et 39. « Étant sorti de la synagogue, Jésus entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était retenue par une forte fièvre, et ils le prièrent pour elle. Alors, debout près d'elle, il commanda la fièvre, et la fièvre le quitta, et se levant aussitôt, elle les servait. » Là, il y a un passage très beau. Donc, la fièvre qui empêche l'âme de servir notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la fièvre du péché. Donc la belle-mère de Simon, retenue par une forte fièvre, est le symbole du pécheur qui est vautré dans son lit, qui ne peut pas sortir de son lit à cause de la fièvre. Notre Seigneur Jésus-Christ arrive, il commande à la fièvre le quitte, c'est le symbole de l'absolution. Et notez que dès que la fièvre a quitté cette femme, c'est-à-dire que dès que le péché a quitté cette âme, immédiatement l'âme se lève et sert notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la première chose à faire lorsqu'on a retrouvé l'amitié de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de le servir. Donc cette femme est la figure, disent les pères, de notre chair languissante et malade, de la fièvre et des passions criminelles. Donc cette fièvre, c'est la fièvre de la chaleur du démon. La chaleur du démon, si vous voulez, c'est le symbole de l'orgueil, c'est le symbole des trois concupiscences. Hein, c'est le symbole de ces trois concupiscences qui nous font brûler vifs, littéralement. Les concupiscences brûlent. Hein, il vaut mieux mourir que brûler du feu de la concupiscence. Recevons donc Jésus avec empressement, car s'il daigne nous visiter et que nous le portions dans notre âme et dans notre cœur, il éteindra le feu des voluptés coupables. Et ce feu, cette chaleur, cette fièvre représente les voluptés du péché. Il éteindra le feu des voluptés coupables et nous rendra la force et la santé nécessaires pour le servir, c'est-à-dire pour accomplir ses volontés. Donc le feu dans ce cas-là, le feu représente les plaisirs coupables. Mais encore une fois, les conséquences des trois concupiscences, c'est tous les péchés d'orgueil, les péchés d'impureté et les péchés par lesquels nous donnons notre âme aux choses de ce monde, par la concupiscence des yeux. Versets 40 et 41. Lorsque le soleil fut couché, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenaient, et lui, imposant les mains sur chacun d'eux, les guérissait. Et les démons sortaient d'un grand nombre, criant et disant « Vous êtes le Fils de Dieu ». Mais ils les menaçaient et ne leur permettaient pas de dire qu'ils savaient qu'il était le Christ. Donc les démons vont reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ, alors que les prêtres de l'ordre des Lévites ne vont pas reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment la phrase de l'Évangile, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Ils ne veulent, ne l'ont pas reçu. Donc faisons attention. Et notre Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que les démons annoncent la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore trop tôt. Donc il les menace, il ne leur permet pas de dire qu'ils savaient qu'il était le Christ. En fait, les pères expliquent que le démon n'était pas encore tout à fait sûr de la divinité de notre Seigneur. Certains démons vont déjà le dire. Je sais qui vous êtes le Saint de Dieu. Mais qu'est-ce que veut dire ce mot, le Saint de Dieu? Est-ce que le démon, le chef des démons, Lucifer, est-ce qu'il était certain de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ? Vraisemblablement pas, il s'en doutait. Il voyait bien que cet homme avait un pouvoir extraordinaire, mais il se doutait en partie, pas totalement. Il n'avait pas une claire vision de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne savait pas que notre Seigneur Jésus-Christ était vraiment Dieu. Parce que s'il avait su que notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu, jamais il l'aurait fait crucifier. Parce qu'il aurait compris, mais si je fais que je crucifie cet homme, par le mystère de la rédemption, la mort du Christ sur la croix, il va détruire mon royaume. Il va m'empêcher de posséder toutes ses âmes. Donc notre Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que les esprits immondes manifestent sa gloire. Il ne convenait pas que le mystère de Jésus-Christ fût annoncé par des langues impures. Les apôtres eux-mêmes avaient ordre de ne pas point parler de lui, de peur que la connaissance de sa divinité venant à se répandre, les mystères de sa passion ne fût différé. Donc on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ choisit le temps de sa mort. Mais il a voulu d'abord enseigner les apôtres pendant 3 années complètes. Il va prêcher l'évangile, surtout sous forme de parabole, au peuple élu de l'Ancien Testament, le peuple juif, pendant 3 années complètes. Et c'est simplement lorsque les temps seront arrivés pour lui qu'il va accepter la mort sur la croix. Donc il ne voulait pas que les démons, en reconnaissant sa divinité, trop tôt, je dirais, empêchent le mystère de la passion de s'accomplir. Versets 42 et 43, 44 du chapitre 4 de Saint-Luc. Lorsqu'il fut jour, Jésus sortit et alla dans un lieu désert, et les foules le cherchaient. Elles vinrent jusqu'à lui, et elles voulaient le retenir de peur qu'il ne les quittât. Il leur dit, « Il faut que j'annonce aussi aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Il prêchait dans les synagogues de Galilée. Il faut noter que la plupart des gens qui suivaient notre Seigneur Jésus-Christ, le peuple qui suivait notre Seigneur Jésus-Christ, le suivaient pour des mauvaises raisons. Ils le suivaient parce qu'ils étaient nourris par lui. Ils le suivaient parce que notre Seigneur Jésus-Christ avait le pouvoir de guérir. Et donc, ils avaient remarqué que quelqu'un qui était atteint de lèpre physique venait supplier notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ guérissait de cette lèpre physique. Mais il n'était pas encore capable de voir que cette lèpre physique est le symbole de quelque chose de bien plus grand, le symbole de la lèpre spirituelle. De même que notre Seigneur Jésus-Christ était capable de guérir un paralytique, de la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ est capable de supprimer la paralysie de l'âme. Et les Juifs ne comprennent pas cela. Lorsqu'ils assistent à la guérison du paralytique, ils ne comprennent pas. Alors notre Seigneur Jésus-Christ, pour leur expliquer qu'il a pouvoir sur les corps, mais qu'il a aussi pouvoir sur les âmes, parce que c'est lui qui a créé les âmes, il va dire à ce paralytique, « Maintenant lève-toi, prends ton grabat et rentre chez toi. » Et le paralytique se lève, prend son grabat et revient chez lui. Et les Juifs qui assistent à cette scène ne comprennent pas que cette résurrection est le symbole d'une résurrection bien plus grande, que les résurrections spirituelles, c'est-à-dire les passages de l'état de péché mortel à l'état de grâce, sont bien plus grands qu'un miracle, même quand un aveugle retrouve la vue, ou un boiteux retrouve l'usage de ses membres, ou un sourd retrouve l'usage de ses oreilles, ou qu'un muet retrouve l'usage de sa parole. D'ailleurs, on le voit très bien, très souvent, lorsque les malades sont guéris, ils ne voient que l'aspect physique, ils pensent parfois même pas remercier notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous les 10 lépreux qui vont à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ leur dit, allez vous présenter au prêtre. Ils y vont, et sur le chemin qui les mène à la résidence des prêtres, ils sont guéris. Il n'y en a qu'un seul qui revient pour remercier. Les autres ne pensent même pas remercier. Parce qu'ils ne voient pas justement le miracle de ce qui se passe derrière notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, en page 39, en bas de la page, j'ai mis une note ici des pères que j'aime bien. Si le coucher du soleil est une figure allégorique de la mort du Seigneur, le retour du jour est un symbole de sa résurrection. Donc la nuit, le symbole du péché, le jour est le symbole de la résurrection. Le peuple des croyants le recherche à la clarté de cette lumière, et après l'avoir trouvé dans la désert des nations, il l'entoure et cherche à le retenir dans la crainte qui ne lui échappe. Alors certes, il y avait certains juifs qui avaient compris que notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu. Et c'est le cas des apôtres, c'est le cas des disciples qui vont voir sous la frêle enveloppe humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, sur son humanité, ils vont voir la divinité qui se cache. Vous êtes le Fils de Dieu, va dire Saint-Pierre. Vous êtes le Fils de Dieu vivant. Seulement, hélas, la plupart ne vont pas comprendre ces choses-là, tout simplement parce qu'ils se rendent compte, au moins de façon générale, ils se rendent compte que s'ils reconnaissent la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il va falloir qu'ils changent beaucoup de choses. Rappelez-vous l'histoire du jeune homme riche qui arrive vers notre Seigneur Jésus-Christ et qui lui dit, mais maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Et notre Seigneur Jésus-Christ lui dit, remplis les commandements, je le fais déjà. Notre Seigneur Jésus-Christ le regarde, l'aime, dit le texte, il l'aima, lui donne la vocation. Si tu veux être parfait, alors renonce à toi-même, renonce à ta volonté propre, prends ta croix et suis-moi. Et le jeune homme n'a pas voulu suivre notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il avait de grands biens. Et ces grands biens sont comme un fil à la pâte qui empêche notre âme de voler. Si vous avez un fil de nylon qui tient la patte du moineau, il ne peut pas s'envoler. Il faut couper le fil pour qu'il puisse voler. C'est la même chose pour nous. Si je suis trop attaché aux choses de ce monde, je ne peux pas voler vers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose, hélas, malheureusement, absolument impossible pour moi. Donc il nous faut couper justement tous ces fils à la patte que nous avons. Il faut faire un examen de conscience. Est-ce que je garde des fils à la patte? La connaissance de soi-même est la première condition pour pouvoir se rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Saint Ignace qui enseigne ça. Et il montre bien que le défaut particulier, c'est souvent un petit péché véniel, c'est ça qui nous empêche de nous envoler vers le Seigneur. Alors il faut étudier nos propres limites, connaître nos propres limites, s'étudier soi-même, se connaître soi-même pour lutter contre ce défaut particulier et se libérer de notre volonté propre, mettre la volonté propre dans notre poche avec le mouchoir par-dessus, comme on dit vulgairement, pouvoir suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, oui, nous avons, grâce à Dieu, terminé ce chapitre 4 de Saint-Luc. Donc, je vous conseille beaucoup, à ceux qui m'écoutent sur Internet, quand on a terminé un chapitre comme ça, relisez d'abord, avec une lecture spirituelle, une lecture de l'Écriture Sainte, relisez lentement le chapitre que je viens d'étudier avec vous, chapitre 4. Donc, relisez les 44 versets du chapitre 4 de Saint-Luc. Et puis, prenez le temps aussi de relire les pages du polycopié qui correspondent à ce chapitre 4. Il n'y en a pas beaucoup en général. Il y en a relativement peu, mais il y a de la page 35 jusqu'à la page 39, c'est tout. 35, 36, 37, 38 et 39. Relisez ces commentaires pour justement vous imprégner de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne s'approche pas de notre Seigneur Jésus-Christ sans payer la facture. La facture à payer, c'est l'abandon de notre volonté propre. Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur à tous ses apôtres. Viens, suis-moi. Et viens, suis-moi pour porter la croix. Si je refuse de porter la croix, j'obtiendrai absolument rien du tout. Voilà, nous allons terminer par une prière. Et la prochaine fois, pour le cours de mercredi prochain, Dieu aidant, nous commencerons à étudier le chapitre 5 de Saint-Luc à la page 40. Terminons par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Une petite note que je rajoute pour ceux qui entendent ce cours en avance. J'ai encore des places pour deux retraites que je prêche, une du 7 au 12 septembre. Non, pardon, celle-là a déjà été prêchée. Celle du 28 septembre, donc prochaine retraite pour laquelle j'ai des places, 28 septembre au 3 octobre. J'en prêcherai aussi une, si Dieu veut, du 19 octobre au 24 octobre. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, veuillez me contacter rapidement sur ma boîte mail ou sur mon téléphone portable. 06 32 01 65 16. Merci. Que bon Dieu vous bénisse tous.